Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes baroques. Nous sommes la radio du festival diffusée sur Demoiselle FM et nous allons vous faire découvrir de nouvelles voix et des sons presque inédits sous la voile de Sainte. Aujourd'hui, je suis Margot et je suis en compagnie d'Inès pour un programme un peu particulier. En effet, nous allons vous parler pendant une heure et tous les blogueurs du festival interviendront. Quels invités aurons-nous aujourd'hui, Inès ?
Oui, donc aujourd'hui, nous recevrons tout d'abord Hélène Dessy-Lartigot, musicologue et musicothérapeute. Puis nous accueillerons Camille Aubray, violoniste au GOA. Enfin, nous terminerons par Gilles Gérard, chef de chœur de la Semaine Enchantée.
Et nous parlerons entre autres de comment devenir une tête d'affiche quand on est jeune, du rapport entre les sentiments et la musique classique, puis de rap et classique. Est-ce une opposition ? Très bien, et dès maintenant, nous allons vous diffuser un petit reportage pour présenter les blogueurs que vous entendrez.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans.
Bonjour, je m'appelle Moyava et moi aussi j'ai 14 ans.
Bonjour, je m'appelle Elona et de même j'ai 14 ans.
On est toutes les trois dans la même classe.
On a choisi cette musique, I Miss You de Clean Bandit, tout simplement parce que c'était notre réveil pendant le voyage scolaire en Irlande.
Quand on écoute cette musique, ça nous rappelle plein de bons souvenirs de ce voyage.
On est partis toutes les trois et on a été accompagnés pendant tout le voyage de d'autres personnes, mais surtout on était avec une autre amie qui s'appelle Pauline.
Vous vous rappelez le premier matin dans le bateau où la prof elle arrêtait pas de toquer à la porte et personne répondait
Mais en même temps on arrivait souvent en retard parce qu'on était super fatigués.
Puis la nuit elle a été dure aussi, le bateau s'attendait beaucoup à cause des vagues.
Mais je me rappelle que le matin tout le monde était très mal,
hyper fatigué. Vous avez le mal de mer.
Après au retour ça allait mieux, mais vraiment le valet c'était assez compliqué.
Et vous rappelez aussi la boîte de nuit le soir.
C'était trop bien.
Même si les musiques n'étaient pas forcément d'actualité, c'était super bien.
Tout le monde dansait, même les profs, c'était super drôle.
Je me rappelle aussi les soirées, on était invités chez les autres en Irlande.
C'était trop drôle dans le trampoline, Ilona, quand t'es tombée. C'était super drôle.
Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, on est devenus plus proches avec les personnes qu'on
a super potes
pendant
avec
les soirées. Et ça, franchement, c'était bien.
Et quand on mettait les musiques trop fortes dans le bus, vous vous rappelez, on s'est fâchés parce que c'était beaucoup trop fort.
Elles étaient super fortes, les musiques.
Et moi, en fait, tu te rappelles dans le musée quand une fois t'as crié, on fait la cache-cache dans le musée.
Je m'en rappelle.
Ah oui, je reconnais, c'est le rythme de We Well, c'est Queen, la base du rock.
Ah, t'as reconnu ? Je suis surpris parce que, Queen, c'est pas tout jeune, ça date des années 70.
Tout le monde connaît, c'est génial.
Led Zepp, c'était tellement mieux. Queen, y'a rien, c'est vide, à part Freddie Mercury.
Tu déconnes ?
Non ! Non, leur instrumental était simpliste à l'excès.
Imagine comment ils ont dû grave taffer pour faire une musique en 3 temps, alors que le rock, normalement, c'est en 4.
Et alors, c'est pas la seule chanson en 3 temps. Regarde les Stones, ça va être Dear Doctor, sorti 10 ans plus tôt.
D'accord, mais ils ont dû grave taffer aussi.
Après,
Moi, je suis pas spécialement fan de cette chanson, hein. C'est juste que, bon, elle me rappelle plein de souvenirs. En même temps, c'est un peu la première chanson de rock que j'ai écoutée.
Pour ma part, c'était un groupe qui était pote avec ma sœur, qui faisait souvent cette musique-là en concert.
Bon, nous, on n'écoutait pas trop Queen à la maison, on était plutôt AC/DC. Hein. Bon, après, de toute façon, depuis la mort de Freddie Mercury, Queen, ça existe plus. Enfin, et puis, c'est pas Paul Rodgers qui changera quelque chose. Hein.
Moi, Lucas, Mia et Thomas avons choisi un morceau du rappeur bruxellois Romeo Elvis, un morceau qu'il a fait en collaboration avec Caballero et Jean Jass, qui sont aussi belges, un morceau qui s'intitule Bruxelles arrive. Moi personnellement, c'est un morceau que j'aime bien parce que le refrain qui dit tu vas finir au Père Lachaise, ça me fait beaucoup penser à mon quartier parce que j'habite près du cimetière du Père Lachaise. Donc à chaque fois que je le réécoute, ça me fait vachement plaisir.
Ils m'ont donné toutes tes fiches, je crois. Autrement, il fait pas gaffe au prix quand je vais te la mettre. Ça fait oh, tu vas finir au Père Lachaise.
Et toi, Thomas, qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau?
Bah, ça me rappelle les débuts de Romeo Elvis, parce que c'est avec ça que je l'ai connu en fait. Et j'ai eu l'occasion de le voir en concert à Alençon en mars dernier. Et c'était vraiment bien. Bah, j'ai eu un acouphène pendant deux jours après, mais c'était vraiment bien.
Ah oui, mais t'as quand même apprécié le concert.
Ah oui, c'était bien.
Et toi, Mia, t'es allé le voir en concert?
Moi, je vais le voir à Sainte, là, au Coconut, à la Bio Dame aussi d'ailleurs. Et avec Kaba et Jean Jass. Donc ça va être plus cool début septembre.
Qu'ils aillent chercher de l'amour autre part où je les roule tous dans ma king size. Hey, 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 il est midnight.
Et moi personnellement, je suis allé le voir au Francofolie donc cette année il y a 10 jours. Et il y avait une super ambiance, c'était un super concert. Et en général, les retours des gens sont super positifs quand ils vont voir Romeo Elvis.
Ouais, ils bougent vachement et tout sur la musique, c'est cool.
On est serré dans une caisse, Bruxelles arrive. On est serré dans une caisse, Bruxelles arrive. On est serré dans une caisse, Bruxelles arrive. On est serré dans une caisse, alligator dans le pays.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour.
Quand on a que l'amour.
Mais c'est Brel ça, mmh. Ça me dit quelque chose.
Ouais, j'adore.
Ah toi aussi?
Ah ouais, c'est génial.
Ah ouais. Je crois que chacun a un petit souvenir par rapport à cette chanson.
Ah ouais.
C'est incroyable.
Moi je me souviens, je l'avais chantée la dernière année de la chorale et on était accompagné par un orchestre, c'était magnifique et j'étais amoureuse du violoncelliste et c'était juste superbe. J'adore.
Quand on a que l'amour pour meubler de merveille.
Moi, c'est pas trop la même chose, quoi. C'est vraiment ma chanson de quand ça va pas trop, qu'on vient de me larguer et voilà, quoi. Donc, chacun son truc, hein.
Mais c'est un hymne à l'amour.
Ah oui, c'est un hymne à l'amour, sauf que moi, avec moi, ça marche pas trop, quoi.
Catharsis.
Catharsis quand tu nous tiens.
Comme quoi, chacun sa petite anecdote, chacun son truc.
Ah ouais, quel bon souvenir.
Ouais, c'est ça. Enfin, il n'empêche que Brel, pour moi, ça reste un poète vraiment le top 1, quoi.
Ouais.
Je pense qu'il vraiment, il inspirera beaucoup de personnes encore dans les quelques décennies à voir. Et, voilà.
Ouais, c'est une icône.
Il touche tout le monde. Quoi.
Ouais, c'est ça, les jeunes, les vieux.
Tu m'as dit, Brel, c'est de la merde.
Ah ouais, j'adore.
De la terre. En simple troubadour, quand on a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on a que l'amour pour parler au canon.
Et dès maintenant, nous allons pouvoir écouter un reportage de Léa et Tylan qui se sont penchés sur la manière dont la musique classique affecte les sentiments.
Quel est votre genre musical préféré ?
Rock, classique, romantique, contemporain, mais pas la musique actuelle.
Tout ce qui est classique, ça m'intéresse bien, et le jazz aussi.
J'en ai pas vraiment, j'en écoute plusieurs, mais c'est vrai, j'aime bien la musique classique. Du moins, je vais assister aux entraînements et c'est très beau. Électro.
Le médiéval, le baroque, le classique, le romantique, le contemporain.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez de la musique classique ?
Une sérénitude, une spiritualité.
Bah, ça peut être des vagues, ça peut être de la sérénité, ça peut être de l'ouverture, des vibrations.
Je ressens parfois des petits frissons, je ressens de l'émotion. Et puis il y a toujours l'attente, quand c'est une musique que je connais, il y a toujours un petit peu l'attente de la mélodie qui va arriver, oui.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez la musique actuelle ?
J'aime pas rien dans l'esprit, c'est plutôt le corps qui bat la mesure, mais ça me suffit pas.
Bah, l'envie de bouger, le mouvement.
Bah après, c'est différent, parce que je trouve que la musique d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus basée sur le rythme répétitif, et c'est plus on ressent plus des vibrations dans le corps, en fait, quand la musique, elle est plutôt forte, plutôt rythmée. Et donc c'est intéressant, c'est d'autres sensations, mais je trouve que c'est plus physique, c'est un peu moins d'émotion en fait.
Écouter de la musique, est-ce que c'est pour renforcer un sentiment ou pour l'apaiser ?
Pour l'apaiser, oui, c'est vrai que les effets de la musique sont excellents pour le psychisme.
Ni l'un ni l'autre.
Mais pareil, en fait, ça dépend, ça qui vient avec la musique, c'est que ça permet soit d'apaiser certaines émotions, soit au contraire les renforcer.
Souvent c'est pour renforcer, on va dire.
Ça peut être les deux. Dans le répertoire romantique, il y a plein de sentiments différents. Donc c'est plus une évolution continue de plein de sensations différentes.
Et pour approfondir ce reportage, je remercie encore Léa et Tylan. Nous accueillons une personne particulière. On ne la présente plus. Les festivaliers déclarent qu'elle fait partie de l'essence du baroque synthé. Et oui, ses conférences font salle comble et éclairent nombre de spectateurs depuis beaucoup d'années. Et son sourire traîne partout. Bienvenue sur ce plateau, Hélène Dessy-Lartigo.
Bonjour, bonsoir.
Mia, Léa et Tylan vont maintenant vous poser quelques questions sur ce lien entre musique classique et sentiment. Merci d'être là.
Alors, et vous Hélène, que ressentez-vous quand vous écoutez de la musique classique ?
Alors, en réfléchissant à votre question tout à l'heure, je me disais, on va m'interroger sur les sentiments. Sauf que quand vous me demandez qu'est-ce que je ressens quand j'écoute de la musique, je pense que la première chose que je ressens, ce sont des émotions. Je ressens la joie, je ressens tout ce qu'ont dit les gens là, de manière très belle dans votre reportage. Les émotions, c'est quelque chose qui nous traverse. La musique, ça nous traverse. Et je dis souvent d'ailleurs pour les cantates de Bach qu'on ne sort pas d'une cantate comme on est entré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a traversé. Un sentiment, c'est un peu autre chose. Un sentiment, ça va être quelque chose qui m'habite avant même d'écouter de la musique. Et qui va effectivement se nouer au moment de l'émotion. Si j'ai un sentiment, par exemple, on va dire le désir de vengeance ou la colère, j'arrive au concert, l'émotion que va me procurer la musique va travailler ce sentiment, vous voyez ? Et ça, du coup, il n'y a que la musique. L'art fait ça très bien, nous fait ressentir des émotions et façonne nos sentiments, du coup.
Et d'ailleurs, quand vous écoutez de la musique, c'est plus pour renforcer un sentiment ou pour l'apaiser ?
Eh bien, c'est justement ça. Les émotions, effectivement, elles sont là pour travailler avec nos sentiments. Je vous donne un autre exemple que la colère ou le désir de vengeance. Un sentiment comme l'amour. L'amour, c'est, je dirais, les 9/10 de la chanson, de la musique depuis le départ, l'amour. Alors ça va être l'amour de Dieu, l'amour du mec de ma vie, l'amour l'amour. Ce thème-là, ce sentiment-là va être, abordé ou touché pendant la musique. Et du coup, il va me faire me déplacer. Il va être façonné par les émotions qui me traverseront. Et du coup, soit je serai, par exemple, encore plus amoureuse, soit je serai en train de me dire « Ah non, mais en fait, ça me rend beaucoup trop malheureuse, cette affaire-là, il faut que j'arrête. » Donc, la musique, elle travaille, justement, le sentiment par les émotions qu'on reçoit. Je ne sais pas si je suis très claire.
Si, si.
Voilà.
Et pourquoi parler des cantates de Bach dans le collège des Bernardins ?
Alors, le collège des Bernardins, c'est un lieu extraordinaire à Paris. Comme ici, à Saintes, c'est un lieu qui a été restauré. C'était un collège médiéval, à peu près de la même époque, je crois, que la Sorbonne. Et donc, un très bel endroit dans le 5e à Paris. Allez-y, hein, c'est très beau. Et c'est un lieu de conférence ouvert vraiment à tout le monde, un peu comme une université populaire. Sauf que le principe de ce collège, c'est plutôt d'aborder des questions de spiritualité, de théologie, de philosophie, comme ça. Et donc, il y a un public très varié et en même temps assoiffé, j'allais dire, de spiritualité, de sens, pour chercher du sens. Donc, quand on m'a proposé de donner des conférences sur les cantates de Bach, j'étais ravie d'abord parce que le lieu est très beau. Et puisqu'on a, il y a un public qui est là, parisien, plutôt très cultivé, mais qui vient chercher du sens. Éprouver leurs sentiments justement et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur cœur quand ils écoutent une cantate de Bach. Donc c'est un grand plaisir de travailler là-bas.
Donc vous êtes musicologue ?
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors, grec logos, logos c'est la parole. Donc la musicologie c'est une parole portée sur la musique, une analyse portée sur la musique. Alors moi j'ai fait des études à Bordeaux, pas très loin d'ici, et puis à Paris. Les études de musicologie c'est des études assez techniques où on vous enseigne à la fois l'histoire de la musique et en même temps l'analyse musicale, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tel ou tel morceau, telle ou telle œuvre, comment elle est construite et comment... voilà. Moi, professionnellement, la musicologie, j'essaie de l'appliquer à une sorte de chemin pour accompagner les gens dans leur écoute. C'est-à-dire, comme tu prends un guide, quand tu vas au musée, tu prends un guide qui va te montrer un tableau. Et ben, pour moi, le rôle de musicologue, c'est ça. Tu prends une œuvre musicale et puis tu amènes les gens pour leur montrer telle ou telle ligne de force, telle ou telle, voilà, le lien entre le texte et la musique, par exemple. C'est ça.
Guide musical.
Voilà, exactement, guide musical, c'est ça.
D'accord.
Et on sait aussi que vous êtes musicothérapeute. C'est quoi ?
Alors, ben, du grec, thérapein, qui veut dire soigner. Et donc, il y a une idée de soin par la musique, de prendre soin grâce à la musique. Donc, c'est des études complètement passionnantes qui mélangent à la fois la psychologie et puis la musique. Donc, voilà, tu vas pas très bien. Ben, t'as besoin de parler. Donc, en général, ton père ou ta mère va te dire, ben, va voir un psy, il va t'aider parce que je peux pas, moi, ta maman, t'aider. Tu vas voir le psy. Sauf que le psy, il faut parler. Il y a des tas de gens pour qui parler, c'est pas si simple. Parler de soi, parler de ses difficultés. La musicothérapie, elle vient là, rejoindre les gens là où ils vont pas très bien, grâce à la musique. Donc je vous vois très jeune, un adolescent, il aime pas tellement aller chez le psy. Par contre, chez le musicothérapeute, il aime mieux parce que moi, je lui dis, ben regarde, amène-moi la musique que t'écoutes. On va écouter la musique du jeune et puis on va travailler dessus. La chanson qu'il écoute tout le temps en ce moment en boucle. Et puis moi, je vais lui apporter une musique. On va faire un échange comme ça sur une musique et puis essayer de travailler justement l'émotion. Voilà, travailler sur les émotions. La musicothérapie, ça travaille grâce à la musique des nœuds. Les émotions dont je parlais, le fil et le nœud, c'est ça. La musicothérapie, on essaie de dénouer des tensions, des craintes, des peurs grâce à la musique ou au chant. Moi, je travaille peu avec le chant ou avec le souffle, par exemple. Ça, j'ai beaucoup fait ça. Parce que c'est un média merveilleux, parce que ça touche autrement que la parole. Voilà, la musicothérapie, c'est ça.
Et comment, justement, on devient musicothérapeute ?
Eh ben, on fait des études. On n'a pas forcément besoin d'être musicien pour être musicothérapeute. Il faut aimer beaucoup la musique, il faut y croire un peu dans ce pouvoir-là, mais tout le monde est assez convaincu, je l'ai entendu dans votre reportage. Donc c'est des études pendant 3 ans qu'on fait à différents endroits. Il y a des études universitaires, je ne sais pas s'il y a à Bordeaux, mais à Paris, à la Sorbonne, il y a un cursus. Puis il y a des études dans des écoles. Moi j'ai fait une école, le Centre International de Musicothérapie. Il faut avoir une appétence pour la psy, c'est évident, pour essayer de comprendre où ça se noue, les choses dans le cœur des gens. Et puis il faut aimer beaucoup la musique, prendre le temps d'écouter beaucoup, voilà. C'est des belles études en général, mais c'est des études qu'il ne faut pas faire tout de suite après le bac, si je vous vois tout jeune là. Faites pas ça tout de suite après le bac, vous allez faire une fac de psycho, une fac de musico, quelque chose comme ça, et après vous irez faire la musicothérapie, ce sera bien.
Et vous avez dit qu'il n'était pas forcément nécessaire de savoir jouer d'un instrument pour devenir musicothérapeute, mais est-ce que vous, à part, vous jouez d'un instrument ?
Oui, moi je suis flûtiste. J'ai travaillé, j'ai un prix de conservatoire à Bordeaux, toujours, parce que je suis du coin, moi, je suis la régionale de l'étape. Donc oui, je suis flûtiste. Et c'était drôle d'ailleurs, parce qu'il y a Hugo Rein qui vient ce soir. Et vous allez l'interroger. Donc en fait, j'étais à l'orchestre du conservatoire à Bordeaux et j'ai joué avec lui quand il était plus jeune, c'était il y a 35 ans.
D'accord.
Et moi j'avais 35 ans de moins et j'ai joué la water music avec lui. Il s'en souvient sans doute pas, parce qu'il a dû le jouer un paquet de fois depuis. Donc ouais, flûtiste, voilà.
D'accord. Et donc, est-ce que la musique que vous jouez est affectée par vos émotions ?
Ah, vous y revenez.
Oui, j'y reviens.
Mais c'est évident. Quand on travaille un instrument ou qu'on joue devant des gens, j'ai joué il n'y a pas très longtemps pour le baptême d'un petit bébé.
Oui.
Le petit bébé hurlait tous ses poumons. Il y a une émotion, on sent les gens qui sont tous comme ça, le père et la mère, le parrain, il n'en peut plus, tout ça. Il y a une tension à ce moment-là. Et donc moi, j'arrive avec ma flûte et je dois jouer sur cette espèce d'émotion comme ça, avec le désir de bien réussir mon morceau quand même, et en même temps d'essayer d'apporter quelque chose à cet endroit-là. Je suis sûre que j'aurais pas joué pareil s'il y avait pas eu cette atmosphère-là. J'aurais pas joué pareil si c'était pas dans une église, si c'était dans la nature. J'aurais pas joué pareil si c'était dans mon bureau en train de travailler. Donc bien sûr que les émotions qui te traversent passe par l'instrument, c'est sûr, enfin je veux croire. Et puis en plus moi j'ai un instrument à vent, donc c'est du souffle, donc le souffle c'est que ça, c'est-à-dire que ça peut pas ne pas s'entendre.
D'accord, et ben merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Hélène.
Merci à vous, bonne continuation.
Et maintenant nous allons pouvoir écouter Eddie De Preto, musique basse.
Voici de la musique douce, douce. Un peu de musique douce, douce. Voici de la musique douce pour entendre le pire. Car à trop être sourd, on ne pourra même plus luire. Juste de la drogue douce pour calmer l'artifice qui paraît des secousses dans un monde sans musique. Voici des calmants lourds pour abaisser les rires.
faut qu'il retire sourire dans ses fêtes sans tabou. Voici de la musique basse pour la faire moins festive, tout en gardant l'audace et restant sûr qui vive. Voici de la musique douce. Un peu de musique douce. La musique douce en guise d'éclaireur pour pas se noyer dans nos bains de sueur. Juste de la drogue douce pour pas être surpris par géants de tous, de peur et de cris. Des calmants lourds pour jouer l'innocent, un œil en somme toujours prêt à temps. La musique basse pour entendre les splashs qui cognent en goutte sur les spots intacts. Voilà que la lumière coule sur nos visages, alarme le temps qu'on avale ce sourd moment de rage. Voilà que les cœurs roulent sur les planches colorées de rouge vif abrupt et de danse desséchée. Voici de la musique douce, douce, oh, oh, oh. Ne danse plus à pas de loup, il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on exige de danser à pas de géant avec des habits de circonstance. Je l'avoue, parfois très outrageant, mais ils font peur au point d'être agent. Je veux bien les mettre et remettre écrit combien je fais la fête en montrant bien que sous mes pieds j'ai la plus belle des cultures dorées, parfois psychée ou sophistiquée. Je danse fort à me tuer à coups d'amour et de lettres. Qu'au petit jour à ses êtres, j'envoie mes sueurs et tous mes baisers pour sereinement aller me coucher. Ne danse plus à pas de loup, il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. Ne danse plus à pas de loup, il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. C'est la musique douce, douce, oh, oh. Un peu de musique douce, douce, oh, oh, oh. Mmh.
Mmh. Eddie de Préto sur musique basse et vous êtes toujours sur les ondes baroques. Après cette partie sur le lien entre sentiment et musique classique, nous allons maintenant parler du rap et de la musique classique. Est-ce un sujet qui s'oppose ? Est-ce un sujet qui pose beaucoup de questions ? Nous allons voir tout ça avec Camille. Et avant cela, un reportage. Inès ?
Oui, donc reportage fait par Thomas sur le rap et la musique classique. Voilà, donc est-ce que rap et classique sont-ils compatibles ? Est-ce que c'est un duo qui marche ? Est-ce que ça peut aider à vulgariser la musique classique ? Élément de réponse tout de suite.
Alors bonjour Séverine. Première question assez direct. Le rap et la musique classique sont-ils incompatibles ?
Alors, dès que tu mélanges deux genres musicaux, tu prends le risque de trahir l'un et trahir l'autre. Et c'est vrai que dans la musique classique et l'association musique classique et rap, a priori, y a ce risque. Il y a ce risque parce que la rythmique du rap est hyper carrée, voilà, très forte, et que l'avantage de la musique classique, c'est justement des rythmes très changeants, en général pas binaires, alors que le rap est binaire. Voilà, il y a des choses comme ça qui, a priori, pourraient dire on va un peu perdre l'énergie du rap et un peu appauvrir la densité du classique. Après, il y a un truc commun, c'est le rapport au texte, qui là pourrait peut-être les réunir, parce que tu l'entends tous les jours ici, la musique classique, elle se développe aussi énormément sur de la poésie, sur un texte religieux, sur souvent des paroles très fortes. Et finalement, le rap a cette dimension-là, donc il pourrait se retrouver au moins sur l'écriture.
D'accord, donc au premier regard, on pourrait penser que pas forcément, mais on se rend compte qu'ils ont quand même des points communs.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a des expériences. Il y a beaucoup d'orchestres qui essayent de s'associer comme ça avec des rappeurs. Je vois l'Orchestre de Chambre de Paris avec Ménélique récemment. L'objectif, ce n'est pas forcément l'artistique. C'est ça que je veux dire. L'objectif, c'est d'abord de rapprocher des publics, des styles d'écoute, des gens qui n'ont jamais abordé le classique et qui ont vraiment baigné dans le rap toute leur vie. D'un coup, vont se rendre compte
que bah, voilà, dans le classique, il y a des choses qui peuvent les intéresser, ou l'inverse. Des gens qui ont toujours considéré que le rap, c'était hyper violent, c'était des gens qui avaient envie de tout casser, se rendent compte que non, c'est aussi des poètes et qu'on peut entendre ce qu'ils ont à dire.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs, pouvoir faire de la musique.
Donc le mélange rap et classique, au final, le plus important serait le message plutôt que l'œuvre.
Oui, moi c'est mon intime conviction. C'est un peu cruel, je pense que peut-être, voilà, c'est cruel pour ceux qui vont faire tout le boulot d'essayer de les rassembler. C'est très bien de le faire, mais je vois, moi je me suis beaucoup intéressée à cette question pour la musique classique et l'électro. Il y a eu beaucoup d'expériences et c'est très bien, et il y en a une de temps en temps qui est géniale.
Et selon toi, le message derrière cette association qui pourrait être inattendue, ça serait quoi ?
C'est qu'à partir du moment où tu aimes la musique, quelle qu'elle soit, il y a un moment donné où tu viens au classique. C'est pas que le classique, c'est mieux que tout le monde, c'est pas ce que je veux dire. C'est les racines, c'est la base. C'est, voilà, tout a commencé par la musique du médiéval, voilà, après le baroque, après le classique, c'est tout l'histoire. Donc c'est un moment, à la fin de cette chronologie, il y a le rap, et bien le rap aussi a hérité de cette expérience.
Et après ce reportage de Thomas, nous avons la chance de l'avoir en plateau et il va nous en parler.
Oui, donc j'ai réalisé ce partage à l'aide de Séverine Garnier, donc spécialiste journaliste en musique classique. Donc c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que le rap, c'est ce que j'écoute tous les jours, et je me suis demandé à l'occasion du festival si on pouvait allier rap et musique classique.
Et ton avis sur cette opposition a changé ou pas ?
Non, parce que je pensais déjà que ça pouvait être une bonne association, donc comme on nous parle dans le reportage d'ailleurs. Et je pense toujours que ça peut faire découvrir des genres musicaux à des personnes qui n'écoutent pas forcément.
Merci Thomas. Donc nous recevons maintenant la jeune violoniste Camille Aubry, qui est depuis un an au JOA.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc à la fin du reportage, Séverine Garnier parle du fait que si on est vraiment passionné de musique, on est forcément obligé de revenir au classique, car selon elle, la musique classique, c'est la racine de la musique. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de...
Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la musique, surtout la musique classique, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie. Et donc, dès que j'ai besoin de revenir aux essentiels, je mets de la musique classique et ça me ressource.
Donc on est forcément obligé d'écouter de la musique classique si on est passionné de musique ?
Ça dépend de chacun. Pour moi, la musique classique sont mes racines, mais il y en a d'autres pour qui ce serait le rap. Donc ils écouteraient du rap pour se ressourcer, justement. Ça dépend de chacun.
Quelle musique écoutes-tu en dehors du classique ?
J'écoute un peu de tout. J'écoute beaucoup de jazz, j'écoute du rap, du blues, j'écoute de la pop, un peu toutes les musiques.
Selon toi, pourquoi la plupart des jeunes ont du mal à adhérer à la musique classique ?
Parce que c'est une question pour moi d'éducation. C'est si on a été éduqué depuis tout petit à écouter de la musique classique, on peut en écouter plus tard, ou alors parce que ça correspond à des règles et on juge ça, on peut qualifier ça d'ennuyeux, alors que ça ne l'est pas du tout, mais c'est justement une question d'éducation et de culture, voilà.
Mais c'est assez paradoxal, parce que dans la musique qu'écoutent les jeunes, il y a beaucoup d'utilisation de musique classique.
En effet,
ils en écoutent beaucoup, quoi.
En effet, mais ils ne le savent pas forcément. C'est vrai que les rappeurs, généralement, ils se servent, ou pas que les rappeurs d'ailleurs, mais ils se servent d'un thème ou de bribes de thème qui remixent ça et ils mettent par-dessus des rythmes, ils changent les paroles, donc ils rendent ou ils la reforment en quelque sorte, donc ils en écoutent mais sans le savoir.
Et lors de la première émission de radio, on a interviewé le compositeur Philippe Scholler, qui a fait pas mal de musique de film et beaucoup de choses, et il nous a parlé du fait que entre tous les styles musicaux, en fait, il n'y a aucune frontière, en fait. Et il nous a dit qu'en fait, tous les styles musicaux, musicalement parlant, en fait, se ressemblent, se regroupent vachement. Qu'est-ce que tu en penses du fait de ça ? Est-ce que tu es d'accord ?
Je sais pas vraiment si je suis d'accord parce que en soi, bah, chaque musique est musique, mais ce n'est pas tout n'est pas pareil quoi. Le rap, ce n'est pas pareil que la musique classique, qui n'est pas pareil que le blues, que le jazz ou que la pop. Voilà.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de festival mêlant la musique classique ou d'autres genres. Est-ce que tu penses que ça pourrait exister ?
Oui, je pense que ça pourrait exister. Il y a déjà des... pas forcément des festivals, mais des concerts où en première partie, on peut avoir de la musique classique et ensuite d'autres styles de musique. Donc je pense que ça pourrait exister.
Et qu'est-ce que tu penses du fait que... parce que c'est quand même un phénomène moderne de mélanger les genres comme ça. Et qu'est-ce que tu penses du fait que... bah, qu'il y ait ce mélange, justement?
Si c'est bien fait, ça peut être très intéressant. Et justement, ça peut être une ouverture à la culture et justement à la musique classique. Donc ça peut être bien, mais il faut que ce soit bien fait.
Et est-ce que t'es une auditrice différente quand t'écoutes du rap et de la musique classique? Est-ce que t'as une oreille différente et...
Forcément, parce que du coup, quand j'écoute de la musique classique, j'écoute plutôt, j'analyse dans ma tête, j'entends vraiment beaucoup. Et quand j'écoute du rap, par exemple, c'est pour me vider la tête. Donc je vais vraiment me laisser aller. Mais quand j'écoute aussi de la musique classique, en fait, ça dépend des humeurs. Parfois, j'ai vraiment envie d'écouter de la musique classique pour me plonger dedans et écouter, analyser chaque thème. Et parfois, juste j'écoute ça pour me laisser aller.
Donc ça dépend du contexte.
Exactement, exactement.
Oui, et non, en fait, donc on s'est rendu compte que ouais, donc dans les morceaux actuels, donc il y a beaucoup de reprises d'air classique très connues. Et on voulait savoir ce que t'en penses, parce qu'en fait, on se rend compte que la musique classique est partout.
Oui, donc, en effet.
On voulait savoir.
C'est un peu comme si c'était la racine de tout, et chaque compositeur actuel ou non s'en sert pour créer ses propres morceaux, au final, sur des morceaux déjà existants.
Et du coup, dernière question, toi qui fais du violon, est-ce que ça te dirait d'essayer le violon électrique ?
Ça peut être une expérience, oui. Mais après, je ne sais pas si c'est le genre de musique que j'aime, mais oui, ça peut être une très bonne expérience, en effet.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Bonne
Merci.
Journée.
Merci Camille, et on se retrouve dans quelques minutes sur les ondes baroques. Et nous voici maintenant dans la troisième partie de notre émission. Pour cela, nous accueillons Gilles Girard, et avant, nous allons découvrir un reportage de Malo sur Thomas Dunford.
Je m'appelle Thomas, je joue du luth, j'ai quel âge ? J'ai 30 ans.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours pour arriver à être musicien ?
Eh ben en fait, ça s'est fait un peu naturellement, mes deux parents jouent de la viole de gamme, tous les deux. Et j'étais en vacances avec eux, quand j'étais petit, je faisais un stage de musique baroque. Enfin non, je les accompagnais à un stage qu'ils donnaient. Ils m'ont dit, si tu veux, tu peux essayer un instrument. Et il y avait une prof de luth là-bas, qui s'appelle Claire Antonini, super prof. Et j'ai essayé le luth, ça m'a plu. Et voilà, ça m'a donné envie de jouer du luth. Donc j'ai continué à jouer et je me suis retrouvé à jouer avec différentes personnes. Quand j'étais jeune à la Comédie Française, j'ai fait mon premier truc. Et je commençais à jouer avec des groupes petit à petit. Après le bac, j'ai fait continuer les études de musique, mais ça s'est avéré que j'étais devenu musicien, mais pas voilà, c'est pas un truc que j'avais calculé. C'est juste j'aimais bien jouer de la musique et les concerts sont venus et okay. Ça fait un peu de meilleur temps.
Vous pourrez retrouver ce reportage en intégralité sur notre blog, mais maintenant nous allons passer à la rencontre avec Gilles Girard. Vous le voyez sûrement depuis plusieurs années dans les allées du festival, car il supervise le stage cantate qui accueille chaque année des enfants à chaque festival pour répéter et se produire et découvrir la musique classique. Gilles, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Gilles Girard, je suis musicien, chef de chœur, je fais chanter les gens, les chorales, voilà. Et effectivement, je viens depuis plusieurs années maintenant à Saintes pour les semaines du festival, avec au départ le stage qui s'appelait le stage cantate et qui s'appelle maintenant ma semaine enchantée.
Wow, c'est joli. Et quelles autres expériences musicales avez-vous pour le moment ?
Eh bien, je travaille donc dans une structure associative où les enfants suivent un parcours au collège et au lycée sur la voix et le chant, voilà, qu'on appelle une maîtrise en fait, voilà. Et donc ça fait 20 ans que je fais ça avec beaucoup de plaisir, et puisque j'en fais aussi l'été, voilà.
Vous êtes chef de chœur depuis 20 ans, pouvez-vous nous expliquer votre volonté de faire cette profession ?
Eh bien, comme beaucoup de musiciens, c'était l'histoire d'un choc, en fait, à un moment donné, à écouter un chœur et à me dire que c'est ça que je voulais, enfin, c'était vraiment la révélation de ce que je voulais faire. Et du coup, il n'y a pas eu d'autres questions pour faire autre chose, c'était ça, et c'était, j'avais 15 ans, en fait. Et donc, voilà, ça s'est enchaîné comme ça, après les études et puis voilà, le métier.
Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec des jeunes ?
Eh bien parce que je crois qu'il est urgent de transmettre la musique classique et de le faire de la manière la plus fun possible, si c'est possible de faire fun. Mais il faut en tout cas transmettre la musique classique parce que voilà, c'est des choses magnifiques à chanter et dans lesquelles on peut vraiment être heureux et s'épanouir.
Pourquoi est-ce urgent ?
Ben c'est urgent parce que la culture, les médias nous bombardent d'une forme de culture qui est omniprésente de par les réseaux sociaux, de par les médias, et que du coup le spectacle vivant et la musique vivante pouvaient facilement tomber à la trappe si on ne la conserve pas, comme c'est le cas à Saintes.
Est-ce que justement vous pensez que l'éducation joue un rôle important dans cette transmission du savoir et de la connaissance ?
Alors c'est une bonne question, parce que finalement la question c'est, est-ce qu'il faut être éduqué pour apprécier, ou est-ce qu'on peut être séduit comme ça par le... Donc c'est un peu les deux en fait. Je pense qu'il faut à la fois avoir les clés pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pouvoir être dans le côté instantané et puis de la découverte.
Et est-ce que ça c'est spécifique à la musique classique, ou est-ce que c'est la musique en règle générale ?
Ouais, je pense que c'est la musique en général, mais encore une fois, cette histoire de diffusion et de médias est tellement présente pour les musiques électro, musique pop, variété, qu'elle n'est pas autant pour la musique classique. Donc je pense que les gens, enfin, ils sont moins exposés en fait à ces styles de musique, donc sont amenés à apprécier.
Est-ce que les jeunes collégiens et lycéens apprécient ce répertoire classique, ou est-ce qu'ils préféraient faire autre chose ?
Ben en fait, c'est-à-dire que moi, je n'oppose pas les choses. Je n'oppose pas ce qu'on peut pratiquer comme musique classique en chœur avec ce qu'ils peuvent écouter à la maison ou de ce qu'ils veulent. Le problème de la musique classique, c'est que souvent, elle a été opposée à d'autres répertoires. Quand je dis qu'il faut la préserver, la défendre, ce n'est pas parce que c'est meilleur, c'est parce que c'est différent, en fait. C'est ça qui est important. Et du coup, non, il y a une grande ouverture par rapport aux jeunes, c'est sûr.
Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'aime pas du tout la musique classique et qui est complètement borné ?
Eh bien, je crois qu'il faut venir au concert. En fait, c'est même pas le disque qu'il faut, c'est vraiment de voir les musiciens, de vivre le truc. C'est ça qui est important, en fait.
Oui, mais par exemple, quand on voit le Festival de Saintes où les places sont à 45 euros, ça peut être compliqué pour certaines bourses.
C'est vrai, mais après, le Festival à Saintes, il y a la chose formidable, c'est que les répétitions sont ouvertes et qu'on peut pousser la porte et venir voir un peu, voilà.
Et selon vous, est-ce que la musique classique fait s'épanouir des sentiments particuliers chez les jeunes ?
Oui, bien sûr. Hein. Comme toute forme d'art et forme d'expression, ça, on est tous sensibles à quelque chose. Et après, il faut assumer d'être sensible à quelque chose et il faut l'accepter par rapport aux autres. C'est ça qui peut être un peu plus difficile en fait pour les jeunes.
Et selon vous, la musique classique élève particulièrement ?
Bah, toute forme de musique élève, enfin, c'est pas, y a pas plus le classique que l'autre, mais c'est sûr que le classique peut élever dans d'autres directions que d'autres musiques n'iraient pas forcément.
Vous parlez tout à l'heure d'une opposition entre musique classique et musique moderne qui était faite régulièrement. Comment est-ce que justement on peut travailler pour que cette opposition soit moins fréquente et véritablement soit un peu plus diluée en fait ?
Bah, c'est-à-dire que moi, l'expérience des pays scandinaves, par exemple, ou même les pays baltes, on rencontre des jeunes pour qui il n'y a pas cette séparation qu'on peut faire. Je ne sais pas, est-ce que c'est spécifique à la France ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui est franco-français par rapport à ça, où on oppose les choses, en fait. Encore une fois, là, en Scandinavie, moi, j'ai rencontré des jeunes qui partagent tous ces répertoires sans aucune limite, et qui ne mettent pas de limite, en tout cas. Et qui ne disent pas tel répertoire est mieux que tel autre répertoire, ou... quoi, ça. Souvent, ce sont les adultes qui mettent ces...
En direct du Festival de Sainte sur les ondes baroques, nous sommes en compagnie de Gilles Gérard et maintenant, instant musique avec Elliot Kroki, Praise the Lord.
Get it. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I'd like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can eat the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop, climbing on them. We think I'm jumping out the window, I got them open. Line around the corner, line them up, the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah, I listen to X, I beat the bars. Yeah, the snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart. Yeah, I waited in line. Return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex. The world is mine. So please believe, allow the grease. These niggas, disease. Don't speak, we squeeze. I make the devil go weak. The knees, you hate your lane.
Parlons maintenant de votre contact avec les jeunes. Premièrement, est-ce que certains de vos choristes deviennent professionnels?
Oui, ça arrive quelquefois. C'est pas le but au départ, mais ça peut arriver. Et c'est que pour eux, la musique a pris une place tellement importante qu'ils ont envie d'en faire leur métier et de poursuivre leur deux ans. Mais on a aussi beaucoup de jeunes qui font un parcours musique au collège, lycée et qui en gardent une pratique amateur très très vive et très forte. Qui chantent dans les chœurs et qui sont heureux d'avoir un métier à côté aussi.
Et d'après ce que vous pouvez observer, est-ce qu'être jeune musicien aujourd'hui, c'est une position précaire?
Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est bon, c'est les parents qui posent cette question-là. mais moi, je crois qu'il n'y a pas plus de précarité en musique que dans notre métier. À partir du moment où on a envie de se remonter les manches et de faire des choses.
Et du coup, les jeunes à qui vous faites chanter, est-ce qu'ils sont... Il y en a beaucoup qui sont forcés à venir à la chorale ou ils sont tous décidés de venir?
Il y en a quelques-uns, bon, c'est les parents qui vont dire « Ah, tu vas essayer », voilà. Mais la grande partie, en fait, là où je travaille, c'est plutôt en milieu rural, en fait. Donc, c'est une forme d'ouverture sur la musique et beaucoup de jeunes viennent voir comment ça se passe. Et après, on espère que ce qu'on propose leur permet de rester et de... Parce qu'ils accrochent à ça, en fait.
Pour revenir à la question de tout à l'heure, vous pensez quand même pas que la musique est un milieu plus fermé, plus compliqué que d'autres études que leurs camarades pourraient entamer?
C'est sûr qu'il y a moins de passerelles possibles, mais souvent la limite, elle est dans le... Enfin, la question de précarité, elle est la question de débouché et d'emploi après. Et c'est par rapport à ça que je répondais tout à l'heure que c'est pas forcément plus bouché qu'un autre métier. Par contre, c'est sûr que si on fait de la musique, mais si on fait de la cuisine, c'est pareil. Si vous faites une filière de cuisine, vous allez être dans une filière spécifique et voilà.
Le reportage sur Thomas Dunford, on l'ignore peut-être, mais nous présenter le jeune musicien qui a aujourd'hui son portrait sur chaque affiche du festival. Pensez-vous que c'est particulièrement compliqué ou qu'il y a une recette magique pour parvenir en tête d'affiche quand on est un jeune musicien?
C'est-à-dire que... Partout, on aime bien avoir des héros, on aime bien avoir des personnes qui émergent par rapport aux autres, on aime bien ce côté un peu médiatisation. Donc la musique classique, elle est pas étrangère à ça, et c'est bien parce que du coup, ça la décale pas par rapport aux autres formes d'expression en fait. Donc, mais c'est chouette, moi je trouve l'affiche elle est super avec les lunettes de soleil, enfin il y a que c'est très réussi. Non, vous aimez pas?
Si, pas de souci avec ça.
Et pour parler de votre actu, pouvez-vous nous parler du dispositif créé par l'abbaye qui est Ma Semaine Enchantée?
Donc c'est une semaine qui existe depuis peut-être 10 ans maintenant, et l'idée l'idée, en fait, c'était vraiment d'avoir, pendant le festival, un stage de pratique de chant, mais où on pouvait aussi aller voir des répétitions du festival. Et c'est ça qui fait la richesse, en fait. C'est-à-dire que les journées, on va à la fois passer du temps à chanter, à monter du répertoire, des répertoires, et en même temps, on va aller écouter des orchestres, voir des musiciens. Et ça, ça a toujours été la force de ce stage, et c'est vraiment très bien pour ça. Et on est trois chefs de chœur, donc Hélène, Guiblin, Paul et moi, et puis deux pianistes, Guillaume et Sabine. Donc c'est une équipe avec Nathanaël qui s'occupe de la médiation culturelle. On est vraiment une équipe et c'est super de préparer ça l'année, et c'est vraiment une chouette semaine.
Et pour revenir à votre expérience, vous qui côtoyez la musique depuis 20 ans, est-ce que vous avez beaucoup de collègues femmes?
Oui, peut-être même plus que de collègues hommes, en fait.
En chef de chœur?
Ouais.
Et en chef d'orchestre?
C'est assez différent de la direction d'orchestre, en fait. C'est presque inversé, en fait. C'est-à-dire que, mais les femmes de chef d'orchestre, il y en a de plus en plus quand même.
Mais donc la position de chef de chœur est inférieure à la position de chef d'orchestre?
Ah, ça, c'est un autre débat, ça. En France, ça l'est, parce que par exemple, à Paris, au Conservatoire de Paris, il n'y a pas de classe de direction de chœur. Il y en a une à Lyon, qui est historique, mais il n'y a pas à Paris. Ça, c'est assez. On en parlait hier soir, je sais plus, avec une personne, c'est assez frappant, en fait, de dire qu'il n'y a pas de classe de direction de chœur au Conservatoire de Paris. À Londres, à Royal College, il y a une classe, à Stockholm, il y a une classe, enfin, à Berlin. Mais à Paris, il n'y a pas. Voilà. Mais ça montre bien justement le décalage entre la direction d'orchestre et la direction de chœur.
Et du coup, c'est un problème qui est spécifique à la France?
Un peu, ouais. Mais c'est historique. C'est qu'en fait, nous, on a eu de grosses ruptures dans la musique vocale en France. Il y a eu beaucoup d'arrêts. Les compositeurs sont moins intéressés au répertoire de chœur que d'autres dans le pays. Donc ça, c'était moins dynamique. Mais là, en France, depuis 30 ans, c'est quand même vraiment revenu maintenant la musique vocale et la musique chorale. Donc c'est plutôt positif, en fait.
J'observais l'autre jour au concert de la maîtrise de Radio France leur chef de chœur, et je trouvais que dans sa gestuelle il transmettait d'une manière particulière la musique. Est-ce que vous avez travaillé cette gestuelle pour communiquer au mieux aux enfants?
Bah, c'est-à-dire que chaque chef d'orchestre ou chef de chœur, il y a une communication à faire passer. Alors après, il y a des outils, il y a des gestes précis, il y a des gestes techniques qu'il faut savoir maîtriser, mais il faut déjà avoir de la musique en soi pour transmettre quelque chose, quoi.
Et ça fait quoi d'incarner la musique comme ça?
Ça fait peur. Non, c'est... Il faut passer beaucoup de temps avec les partitions et les œuvres avant pour se les approprier vraiment, avant de pouvoir les faire avec les chanteurs. Mais c'est un processus qui est vraiment super intéressant et passionnant.
Et de votre point de vue, c'est particulièrement difficile de faire chanter des enfants? Davantage que des adultes ou pas? C'est un défi?
Moi, je trouve que c'est plus facile parce que il n'y a pas de. Les enfants sont beaucoup moins à se retenir. Après, il y a toujours l'action de timidité, et ça c'est normal, et de prendre confiance en soi pour faire quelque chose, mais ça c'est propre à n'importe quelle activité dans la vie, en fait.
Ils se mettent moins de barrières, en fait, que les adultes?
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, quand plus ils sont nombreux et ensemble à partager la même chose, moins c'est compliqué, en fait.
Merci, Gilles, pour vos réponses, et particulièrement sur la musique dédiée aux jeunes. C'est bientôt la fin de cette émission sur les ondes baroques. Et avant cela, nous allons vous donner le programme de la fin du festival.
Retrouvez ce soir dans l'Abbatiale l'ensemble Les Surprises, dirigé par Louis Noël, Bestion de Camboulas. Ils joueront pour notre grand plaisir l'opéra Issa de Détouche. N'oubliez pas demain l'éternel Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier, à 13h30 dans l'Abbatiale. Et en clôture, retrouvez le patriarche Philippe Hervègue et la soprano Kelly God autour de l'orchestre des Champs-Élysées.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes baroques et vous entendez les premières notes du générique confectionné par Alice et Louis, que nous remercions chaudement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés durant toute cette émission. Nous sommes ravis d'avoir pu vous faire découvrir un petit bout de festival. Tous les blogueurs ainsi que tous les invités étaient magiques. Merci et à demain.